On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue dans On Rembobine, votre émission musicale du mercredi soir à 21h bien sûr. Comme toutes les semaines, on va rembobiner de la bonne musique grâce à des cassettes, on va remonter dans le temps. Et je suis toujours accompagné, comme chaque semaine, de mon fidèle acolyte Pablo. Comment ça va?
La grosse forme, et toi mon petit Joris?
Ça va très très bien. Aujourd'hui en plus, c'est la 10e émission.
L'anniversaire.
on va parler d'un groupe que j'affectionne particulièrement. Et on a un invité avec nous, une personne du prénom de Maxime. Comment ça va?
Ben bonsoir. Ben écoutez, ça va super, je suis super content d'être là et de pouvoir parler de ce groupe qui m'influence tant dans ma manière de vivre.
Mais quel groupe?
Mais je ne sais pas, Joris.
Tu as le droit de le dire.
Tu peux le dire, c'est toi qui rime.
Vas-y. Les Rolling Stones. Non.
Oui.
Taylor Swift non plus, putain. Mince. Nirvana, évidemment.
Et voilà, on va parler de Nirvana.
Ce n'est pas
écrit sur ma gueule.
Oui, il a un magnifique t-shirt. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais il a un magnifique t-shirt Nirvana, hein, bien sûr. Voilà, et lui peut citer 5 chansons, bien sûr, de Nirvana. Parce qu'il y a souvent ce truc-là, des gens qui portent des t-shirts mais qui ne peuvent pas citer de chansons.
C'est pas une marque de t-shirt? On parle pas de textile aujourd'hui?
On va parler du textile Nirvana, bien sûr.
Exactement, le smiley.
Non, voilà, Nirvana, bien sûr, quand on pense au grunge, on pense à Nirvana, même s'il y a bien plein d'autres groupes, hein, Soundgarden, etc. Mais on pense quand même à Nirvana. Groupe qui s'est formé en 87.
Exactement.
Voilà, avec Kurt Cobain à la guitare et au chant, hein. On ne présente plus Kurt Cobain, même si on va devoir le faire. Il y a aussi le bassiste, je vais y arriver à le dire, hein, Krist Novoselic, je me suis trompé.
Exactement, t'as dit Novoselic, c'est incroyable parce que la plupart des gens disent Novoselic, okay. Et je crois qu'il est genre croate, Novoselic. Et en fait ça se prononce pas
comme ça,
mais ça se prononce tch.
Je suis trop fort. Donc, et bien sûr, rejoint après, même s'ils ont eu plein de batteurs, mais ils ont eu le fameux batteur Dave Grohl,
le fameux.
Vers... 90, j'étais pile presque. Voilà, Dave Grohl qui, bien sûr, après le groupe Nirvana, a fait bien d'autres choses, comme d'ailleurs un groupe qui s'appelle les Foo Fighters.
Wow. Petit groupe, hein, franchement, petit groupe.
Tout petit. Voilà. Et du coup, avant de rentrer dans le sujet Nirvana et leur premier album en 89 qui s'appelle Bleach, j'ai une petite question pour toi, Maxime, et aussi pour toi, Pablo.
Dis-moi, soit.
C'est quoi votre rapport et votre lien avec le groupe Nirvana? Comment vous connaissez? Comment vous avez découvert? Peut-être si vous vous rappelez, parce que peut-être que ça remonte à très longtemps.
Aucun rapport avec Nirvana, j'ai entendu parler.
Ok. Et Pablo?
Pareil. Moi, c'est. Alors, pour donner une date, je saurais pas, mais. J'étais plutôt jeune et c'est quand je me suis mis à la guitare et surtout parce que mon père écoutait du rock en vrai et c'est les classiques en fait. J'avais appris Smells Like Teen Spirit du coup.
Le classique.
Classique, le fameux l'hymne de Nirvana, comme As You Are aussi qui est un basique à la guitare.
Exact.
Enfin voilà, et c'était un peu les premiers où j'avais commencé à gratter un peu à faire ça. J'avais appris le solo de Smells Like Teen Spirit et j'étais super fier. Et c'était là en fait. Je me suis tapé le clip aussi à l'époque et je trouvais ça un peu stylé. L'atmosphère, clip qui avait d'ailleurs été improvisé pour la fun fact. C'était pas prévu.
Ils nous balancent déjà des anecdotes.
Les anecdotes,
j'adore.
C'est bon, hein.
Excuse-moi. Du coup, ils avaient pris des gens au hasard qu'ils avaient ramené dans une petite un local quoi, globalement. Ouais. Et ils ont commencé à faire leur son tranquillou.
C'est
les gens ont commencé à péter un plomb. Et tout ça était improvisé.
C'est ça l'esprit grunge en
et
fait.
De fou.
Ah, on est en plein dedans, on peut le dire. Globalement, on est en plein dedans.
Et du coup, toi, comment t'as découvert Nirvana? Pareil un peu, la guitare, non?
Parce
que
pas
tu
vraiment.
Fais de la guitare.
Oui, je fais de la guitare.
Il faut le rappeler.
Je fais beaucoup de guitare même, mais pas beaucoup bien, beaucoup,
beaucoup
encore
en souvent, quoi.
moi, je saurais. Alors, c'est un peu difficile à dater, etc., comme Pablo, mais quand j'étais, on va dire, jeune ado, je vais avoir peut-être aller entre 12 et 14 ans, quelque chose comme ça. Je me baladais sur YouTube parce que j'ai toujours beaucoup écouté de musique. Puis je me balade sur YouTube en fait, et sur YouTube, les trucs qu'on va te proposer, c'est les trucs. Les gros hits quoi.
Qui marchent,
Les trucs qui marchent. Et à un moment, passe Come As You Are, et je me dis, ouais, c'est pas mal. Puis après, il y a Smells Like Teen Spirit, et là, je me. Vraiment One Punch Man dans ma tête là. Et je me dis, wow, mais c'est ce son là, moi, que j'aime bien en fait. Et depuis, j'écoute Nirvana. Je pense que ce serait pas abusé de dire quotidiennement, quoi.
Eh oui, tous les jours.
Depuis mes 14 ans.
Depuis mes 14 ans.
Le mec est calé, quoi.
Incroyable.
J'ai un petit peu écouté, en vrai.
Ouais. Moi, c'est via mon grand frère. Voilà, tout simplement. Okay. Parce que mon grand frère, je l'ai jamais dit, que j'ai un grand frère,
mais j'en ai un. J'ai vraiment appris il y a une heure, mec. Ça me fait.
Et il est batteur, et du coup, bah, forcément, enfin, il a appris les fameux drum fill, les breaks, tout ça. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert Nirvana, et aussi, bien sûr, en commençant la guitare, parce que de rien, voilà, bah, exactement.
Ou même passage obligé.
C'est ça. Quand tu joues, ouais, quand t'aimes la guitare et le rock. Le bon rock.
Le rock and roll.
C'est vrai que.
Comment t'as parlé?
T'as vu ça? Le bon rock.
Le bon rock. Le bon rock.
C'est vrai qu'un jour ou l'autre, tu tomberas forcément sur un morceau de Nirvana que tu vas essayer d'apprendre, quoi.
On est d'accord.
Et on va pouvoir parler directement de Nirvana, mais avant, on va écouter une musique. On va écouter A Bad Girl, qui est sorti dans le premier album de Nirvana, qui s'appelle Bleach, sorti en 89. Et après, on en parle juste après.
On rembobine.
Et c'était About the Girl, sorti en 89 sur l'album Bleach, le premier album studio de Nirvana. Chanson aussi qui parle, je crois bien, de sa relation avec sa première petite amie.
Exactement.
Et elle ne savait pas.
Non.
Voilà, elle l'a découvert dans un documentaire, donc c'est assez drôle.
Tracy Morder, pour citer son prénom et son nom.
Voilà, merci Maxime. Tu vois, c'est pratique d'avoir un fan. t'as une info, vas-y, balance. Non mais, je vais y arriver. Chanson très, un peu pop, en fait.
Ouais, alors en fait, il l'a écrite à la base... C'est un peu en mode j'écris une petite chanson mignonne pour
c'est
ma chérie
ça, ouais.
Et en même temps c'est un peu pour se foutre de la gueule des grands tubes ouais. Qui parlent d'amour, Still Loving You et tout ça.
Genre les Beatles.
Ouais,
c'est inspiré des Beatles d'ailleurs ce son.
Ah ouais.
Oui.
D'accord.
Oui, bah,
c'était une des
dans la mélodie un peu, c'est ça.
La balade ouais, un peu okay. En accord mineur comme ça, c'est
exactement.
Des Beatles.
OK, très bien.
Exactement.
Et dans ce même album, il y a bien sûr un autre morceau et bien d'autres, mais un que tu as choisi, ouais. Maxime, qui s'appelle Love Buzz et en fait, c'est une reprise.
Exactement.
Et pourquoi ce morceau-là?
Alors, j'ai choisi ce morceau-là pour la simple et bonne raison qu'en vrai, il y a une anecdote qui est assez marrante sur ce morceau, c'est une reprise de Shocking Blue, un
ouais.
Groupe
néerlandais
vraiment cool, ouais, néerlandais.
OK.
Et le morceau d'origine est vraiment cool et il en a fait quelque chose en gardant vraiment le même esprit mais de totalement différent, mais vraiment totalement différent.
Mmh. Avec et ce truc Nirvana,
ouais,
grunge, justement.
Exactement, et là, un peu crado, un peu avec de la disto, alors que de base, il n'y a pas du tout de disto sur le morceau. Mmh. Voilà. Et ce qui est marrant sur ce morceau, c'est que Kurt Cobain était assez introverti et il n'aimait pas spécialement s'entendre jouer et tout.
Okay.
Mais il était tellement fier de cette reprise, il l'aimait tellement qu'il appelait les radios locales qui passaient ce morceau pour demander à ce que ce morceau passe à l'époque, et il faisait des balades en voiture à écouter ce morceau parce qu'il était super fier de lui juste pour ce morceau là quoi.
Bah, pour une fois qu'il est fier de lui, le ref.
Non. Très fier, et d'ailleurs c'est le premier single de Nirvana.
Exactement.
Qu'on va pouvoir écouter tout de suite, on rembobine. Et Love Buzz dans le premier album de Nirvana. Très gros groupe, bien sûr. Et oui, et c'était une magnifique reprise parce qu'en fait, on sent direct la patte Nirvana, la patte Kurt Cobain, la patte Chris Novoselic. Je l'ai encore bien dit. Yes.
Wow. D'ailleurs, petite anecdote sur le premier album de Nirvana, donc Bleach, sorti en 1989, le 15 juin 1989, pour être exact. C'est l'album le plus rentable de l'histoire de la musique.
Ok, parce qu'il n'a pas coûté cher.
Il a coûté $600 et il a été enregistré en même pas 5 jours, ce qui est rien du tout. Et c'est le deuxième guitariste à l'époque de Nirvana, Jason Everman, qui a donné, qui a prêté les 600 balles à Kurt Cobain pour lui dire bah tiens.
Et qui s'est fait jeter comme un malpropre. Oui. Parce qu'il a donné 600 balles, il a fait l'album le plus rentable et on l'a jerté juste après.
Exactement. Très sympa. Je sais plus si c'est lui qui est parti ou si il s'est fait jerter, mais dans les deux cas,
il est parti. C'est très drôle. T'avais une anecdote là-dessus ou pas?
Bah, moi j'avais une petite anecdote sur le single en lui-même, parce que du coup, c'est le premier qui est sorti en 88 de Nirvana. Et la maison de disques, enfin le label qui les suivait à l'époque, c'était Sub Pop, en avait pressé que 1200, je crois, à l'époque, bah, pour le prix normal.
Oui, voilà.
Et en février 2021, on a appris qu'il y avait un single justement de ceci qui avait été vendu pour 3998 $.
Très bien.
Donc c'est une petite relique un peu.
Genre, ah ouais,
c'est tous ceux qui ont ça, c'est.
Il y a tellement peu d'exemplaires que.
C'est
ouais,
un très bel objet de collection, quoi.
Et juste après Bleach, enfin. Deux ans après, en 91, on a le mastodonte Nevermind, hein, qu'on ne présente plus, pochette iconique, son iconique, et d'ailleurs Smell Like Teen Spirit, ils pensaient pas que ça marcherait autant,
non,
tu vois, ils ont fait le single comme ça, et bam, le label, le groupe, ils ont été tous surpris. Nevermind, disque incroyable qui...
Vous savez, c'est celui avec le bébé dans l'eau, là.
Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer une image? Non, vous l'avez en tête, en fait.
Tout le monde, là, tout le monde.
Et du coup, ils ont commencé l'enregistrement en 90, avec toujours Chad Channing à la batterie, mais après il quitte le groupe et est remplacé par le fameux Dave Grohl.
Le fameux Dave Grohl.
Voilà, qui après rajoute sa patte sur The Smells Like Teen Spirit, Come As You Are et plein d'autres. Des hits, en veux-tu, en voilà. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle In Bloom. Voilà, que Kurt Cobain a écrit, puisque en fait il a globalement presque tout écrit dans Nevermind.
Ouais.
Et dans cette chanson, eh bien, on va pouvoir l'écouter tout de suite. Ça vous va?
Très bien.
S'il te plaît, on rembobine. Kids for food.
avec Joris, on rembobine sur RCN.
Et In Bloom, sorti sur l'album Nevermind en 91, toujours Nirvana, encore et toujours bien sûr.
Ah, on n'a pas changé putain.
Et non. Et petite transition pour parler des paroles, puisque les paroles sur ce morceau peuvent évoquer beaucoup de choses. Hein, les armes à feu, l'aliénation, le suicide, et ça me permet de parler de Kurt Cobain, puisque un peu semble le type, non, Bresson.
C'est vrai qu'on l'a pas pris
en même temps.
Pas tant que ça.
Sa vie, voilà, c'est chaud quoi.
Bah...
Comment ouais, expliquer, je vous invite à regarder un super documentaire sur la vie de Kurt Cobain qui s'appelle Kurt Cobain de point Montage of Heck.
C'est ça.
Donc franchement allez-y parce que la vie de Kurt Cobain est super intéressante.
Bah, globalement un esprit torturé dans un adolescent qui sait pas où il en est dans sa vie.
Très bien résumé.
Divorce des parents beaucoup trop tôt.
Un père ignoble
globalement.
Une famille qui le renie.
Voilà. Mais
tout ce qui fait pour devenir quelqu'un de sain d'esprit en tout cas.
Et de la très bonne musique.
Mais de la bonne musique.
Faut être torturé pour faire de la bonne musique.
Ouais faut croire.
Et on le sait puisque c'est pas le premier du club des 27 dont on parle, on a parlé de Jim Morrison et plein d'autres personnes avant, puisque on le rappelle, Kurt Cobain est mort, et oui, en 94, à l'âge de 27 ans. Voilà. Sur ce même album, une autre petite chanson bien
sympathique.
Alors
moi j'avais juste, si je peux me permettre,
In
Bloom, anecdote, In Bloom, du coup, qui parle, la signification principale et la plus reconnue, ça reste quand même que ça parle, ça se moque des gens qui écoutent une musique sans savoir pourquoi, etc. Le clip d'In Bloom, il y en a deux en fait, en réalité. Il y a donc celui qui est connu, qui est en noir et blanc, qui est pour se moquer des grosses émissions américaines et vraiment beaucoup pour se moquer des Beatles. Ce qui est assez paradoxal puisque c'est le groupe qui les a inspiré.
C'est un peu de l'humour aussi.
Ils sont très drôles, les ces gars-là, non ?
Ouais, il y a une forme de sarcasme, mais il se moque. Enfin, il est vraiment là pour dire c'est ridicule, quoi. C'est pour ça que dans le clip, dans la version reconnue du clip, celle en noir et blanc, on entend des cris, etc. C'est vraiment ça. C'est typiquement des rediffusions des Beatles, quoi. Voilà, exactement.
Avec un public d'adolescents.
Exactement. C'est exactement ça. Ouais, ils cassent tout. Pas pourquoi, enfin voilà. Et le premier clip du coup qui est sorti avant, là pour le coup, on a Chad Channing et pas Dave Grohl à la batterie.
Okay.
Le clip n'a aucun sens. Aucun putain de sens. On le voit manger un hot dog avec un masque. Pourquoi
D'accord.
Mais là, aucun sens. Mais il est trouvable sur YouTube. Hein,
ok. Bah, on vous invite à aller voir ça.
Il faut regarder les deux. Que...
Ouais, voilà. Et du coup, dans cet album de malade qui s'appelle Nevermind, bien sûr, on est toujours en 91, il y a aussi un morceau qui s'appelle Polly. Une petite balade, en fait, mine de rien. C'est un peu plus calme, une petite balade mélancolique, mais qui aborde un sujet très sombre, qui est inspiré d'un fait divers, bien sûr, qui, en fait, est clairement l'enlèvement, le viol et la torture d'une adolescente, voilà. Et donc, Kurt, dans cette chanson, chante et se met à la place du kidnapper. Voilà, exactement.
Donc, Gerald Friend.
Oh, il a même le nom.
Son blast, balance des
blagues, il
est beau celui-là, parce que moi je l'avais pas.
Il
est très fort.
Mais les paroles de la chanson peuvent paraître malsaines, hein, comme ça, pris au premier degré, mais ça l'est pas, hein, parce qu'on sait très bien les objectifs de Cobain, hein, parfois, et surtout sur ce morceau-là. C'est pour montrer son admiration sur le courage de la jeune fille et tout ça. Voilà.
Et il était ouvertement anti-viol, enfin, il prenait que des.
Ah, il était ouvertement féministe,
ouvertement beaucoup de choses.
Il était ouvertement. Plutôt implicitement engagé politiquement parce que je pense que c'était pas l'aspect politique premier du truc qui l'intéressait, mais il était profondément engagé dans les valeurs humaines qui lui paraissaient justes,
carrément.
Notamment le féminisme, hein, je veux dire, il y a énormément de live de Nirvana où il monte sur scène, il est en robe, ce genre de choses, et c'est assez... assez inédit dans les années 90.
Bien sûr.
Et on sort d'une période où le rock et le métal, c'est quelque chose d'assez misogyne quand même. Il y a que des hommes sur scène, voilà.
Ouais.
Et là, bam, le grunge explose la tête de proue, c'est Nirvana. Les mecs sont féministes à fond.
Ouais.
Ils essayent d'avoir le plus possible en première partie des groupes de filles, quoi. L7, tout ça. Ils soutiennent carrément des artistes comme Sonic Youth ou pareil. Il y a des filles à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment, ils marquent vraiment une cassure entre ce qui s'est fait avant dans le rock et le métal, en arrivant avec un hybride justement entre le punk rock et le métal, et ils en font un truc très personnel d'une jeunesse aliénée qui sait plus trop où elle en est, etc., avec des valeurs qui lui correspondent plus. Et ils amènent énormément de nouvelles valeurs et de choses complètement inédites à cette époque-là dans les musiques populaires, ouais. En tout cas, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant en plus ce truc-là.
Bah, surtout dans une esthétique grunge qui à la base est plutôt underground.
Exactement,
ouais, c'est tout très, très cool. Cet aspect cru, cet aspect très dénonciateur qui est propre à cette culture et à ce mouvement musical de l'époque, qui fait que comme c'est hyper médiatisé, les gens sont un peu choqués de se dire putain, mais il s'en bat les steaks le mec. Et en fait, il fait de la musique ultra énervée en disant des choses ultra énervées. Mais avec un point de vue toujours de la personne, enfin il est pour en fait plein de choses très importantes sur la politique, etc.
Et il disait d'ailleurs, je vais le citer, Polly est une chanson d'amour, une chanson très personnelle sur le viol, je devais cela à mon ami, je devais évacuer le traumatisme, la musique existait avant le texte, et, elle, et donc voilà, c'est pour un peu aussi une cathartique, tu vois, enfin pour purger justement tous ces traumatismes là. En tout cas, on va écouter cette petite musique, cette petite balade mélancolique mais au sujet très très important, et une très belle musique dans l'album Nevermind.
On rembobine. All we want is a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a bit nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clap dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
Et c'était Polly dans l'album Nevermind de 91, voilà. On va pouvoir passer, avant de passer à la phase B de cette émission, oh là, j'adore ce jeu de mots.
Tu le dis à chaque fois. Ouais.
La phase B. Oh les cassettes.
On est trop vintage.
Parce que vous êtes toujours dans On Rembobine, bien sûr. Eh bien, on va faire un petit quiz, voilà, des petites anecdotes. Donc si vous avez des trucs à balancer, faites-le. Moi, j'avais l'anecdote de Jason Everman, mais on l'a déjà dit, donc celui qui a donné 600 euros pour faire pour faire le quiz, bien sûr. Mais je vais vous parler de Pat Smear.
Quel dieu ce mec.
Qui est Pat Smear? Vas-y, déjà, déjà qui est...
Alors, Pat Smear.
Smear.
C'est une vraie bonne question,
Pat.
Ça. Pat, le patou, le fameux, ce bon vieux patou, ce bon vieux patoche, qui rejoint le groupe du coup après l'enregistrement, enfin après l'explosion de Nevermind
en 93.
Ouais, exactement. Le mec, c'est pas n'importe qui, quoi. Mm-hmm. Le gars a joué avec The Germs, a enregistré l'album G.I. produit par Joan Jett, si je ne m'abuse, qui est, selon moi, et la parole. Enfin, selon moi, c'est vraiment un des meilleurs albums de punk qui existe de tous les temps.
D'accord.
Le mec est trop chaud. Et il rejoint donc Nirvana après Nevermind. Et il est.
Tu as parlé du groupe dans lequel il était avant.
Oui.
Pourquoi il n'est plus dans ce groupe ?
La mort.
Oui, exactement. En fait, c'est assez triste, mais.
Il est revécu dans un autre groupe.
Non, c'est qu'en fait, le chanteur de ce groupe-là, il s'est suicidé.
Ah, exactement.
Et c'est assez triste quand on sait qu'une fois qu'il a rejoint Nirvana, 6 mois après avoir rejoint. Ouais. Bah Kurt Cobain se suicide lui aussi.
Alors voilà, ça prouve le suicide. Après voilà, je ne veux pas lancer d'autres débats.
Pas de smire. Mais tout va bien finalement puisque maintenant il est avec, enfin il a été avec Foo Fighters après Nirvana et Dave Grohl et là tout va bien.
Ouais, tout va bien. Il n'est pas resté
longtemps.
Il est parti quelques temps quand même. Hein, mais il a rejoint les Foo Fighters au final.
C'est vrai, c'est vrai.
Je les ai vus cet été en concert.
Ah, c'était bien.
C'était génial. Les Foo Fighters assurent. Dave Grohl est globalement un bon musicien, un humain un peu moins.
Ouais, voilà. Il a ses péchés.
Voilà.
Petite anecdote, les trois membres de Nirvana ont tous des parents divorcés.
Exactement.
Oh là là, c'est rigolo ça.
Tiens.
Kurt Cobain quand il avait 9 ans, Dave Grohl 7 ans et Christ bien sûr quand il a eu 18 ans, un peu plus
tard. Exactement. Et d'ailleurs, le Chris Novoselic, il l'a rencontré un jour en allant chez un de ses copains du collège. Et en fait, c'était, je crois, le grand frère de ce copain-là. Et il est rentré chez lui et il s'entendait bien, mais voilà. Et il a entendu du gros punk à fond dans une chambre. Il est monté dans la chambre sans vraiment demander s'il pouvait y aller. Il a ouvert la porte et il a vu ce mec qui fait beaucoup, enfin, qui est très très grand, c'est-à-dire plus de 2 mètres, je crois. Okay. Il doit faire 2m02. Et. Il lui a parlé en mode ouais mec j'adore aussi le punk blablabla et ils sont devenus meilleurs amis
trop
pour la vie quoi.
Trop bien.
Incroyable.
Petite dernière anecdote, dans leur troisième album In Utero sorti en 93, il y a un morceau qui s'appelle Moist Vagina.
Yes.
Je vous laisse faire la traduction chez vous. Et est-ce que vous savez comment de base il devait s'appeler ce morceau?
Alors là,
bon courage.
Ouais,
je vous le dis.
Alors... Je l'ai, mais je m'en souviens plus. Mais
alors, Moist Vagina, and then she blew him like he's never been blown, brain stuck all over the wall.
Ouais, c'est ça.
Très long, et un peu, ils avaient un peu peur de la controverse, sachant que, aussi, déjà dans cet album, il y avait le morceau Rape Me, dont on va pouvoir parler maintenant, transition parfaite.
Transition parfaite.
Et oui, Rape Me, dans l'album In Utero, sorti en 93, le troisième et dernier album studio du groupe, malheureusement. Chanson qui parle, je voulais faire la traduction aussi chez vous. Mais c'est pas ce qu'on croit, bien sûr.
Non, ce n'est évidemment pas ce qu'on croit. Rape Me, c'est un morceau plutôt engagé que.
Bien sûr.
Que engageant, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens à l'époque qui l'ont pris. Bon, après, c'est parce qu'il y a aussi le fait que Nirvana était un peu mal vu, c'était des crados, c'était un peu les punks
drogués,
qui passaient à la télé, c'est drogué, donc voilà,
on
voulait un peu leur mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, donc In Utero, qui est produit par Steve Albini. Ça part un peu ça parle beaucoup quand même de ce que Kurt Cobain voit comme quelque chose de très mauvais dans le monde. Il a un peu nihiliste sur les bords. Et Rape Me, donc c'est un morceau qui dénonce assez violemment le viol,
mais c'est une chanson anti-viol,
c'est une vraie chanson anti-viol, comme peu il en a été écrite des aussi sincères. Et les gens à l'époque l'interprètent comme une hymne au viol,
il fait
la promotion du viol, il incite au viol, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, si on se concentre sur les paroles, on se rend quand même bien compte que c'est hyper hyper violent sincère quoi.
Bien sûr. Et ce morceau est aussi un peu considéré comme une suite ou une sœur de Polly qu'on a écouté justement. Donc c'est plutôt marrant pour l'anecdote, on va dire. En tout cas, je vous propose d'écouter ce morceau
en rembobine.
Ah oui.
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm on the own. Thank you.
Rape Me dans l'album In Utero de Nirvana sorti en 93.
Le fameux son, voilà, donc on en parlait, qui a fait beaucoup polémique.
Bien
et
sûr.
Moi, je voulais juste revenir sur son point de vue à lui, parce que du coup, forcément, ils ont dû s'expliquer du fait que bah, ils étaient ultra médiatisés de manière générale, de par leur succès, de par le caractère un peu de Kurt Cobain qui était problématique pour certains, quoi.
Avec sa femme notamment.
Par exemple,
Love, et l'usage de drogue dure.
Exactement. Et moi, je voulais juste revenir sur ce qu'il disait, parce que du coup, pour les observateurs ou les journalistes, il y en avait qui le voyaient, au lieu de juste percevoir ça comme une apologie du VIOLE, sans eux.
Tu peux le dire.
Il disait que c'était une réponse du coup personnelle du groupe, et plus particulièrement de Cobain, aux critiques justement des autres journalistes, tout ça, ou encore aux commentaires cyniques sur sa célébrité et ses problèmes personnels. Donc c'était plus une manière de cracher un peu sur toutes ces personnes, et d'ailleurs, il dira lui-même que pour lui, les médias l'ont...
ont violé sa vie.
Voilà,
exactement.
Ont violé sa vie. Il y a, c'est super important ce côté des médias, justement, parce que c'est quelque chose qui, contre lequel ils étaient beaucoup, particulièrement Kurt Cobain. Ça lui est arrivé plein de fois d'insulter en direct, en interview, ou de cracher ouvertement sur
les caméras.
Sur les caméras,
concert,
exactement, qui est d'ailleurs aussi, on en parlait, mais c'est un peu la culture aussi du grunge.
Exactement.
Parce qu'à la base, c'est quelque chose, on en parlait, qui est très underground, qui n'est pas médiatisé. Et le but, c'est justement de garder cet esprit un peu... niche, quoi, on va dire, sans avoir une sans que ça atteigne des personnes qui deviennent des fans, la pop culture, tout ça, tout ça.
Bien sûr.
Et donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il était plutôt fidèle à cette essence, en vrai, de cette culture.
Ouais,
et,
exactement.
Et voilà, je trouve ça plutôt
intéressant. Ouais, puis en plus...
c'est un morceau que t'as choisi, aussi,
déjà. Ouais, déjà, c'est un... Ouais. Et en plus, cet album, en lui-même, c'est un peu une réponse à tout ça, parce que, en gros, In Utero, il a été écrit... parce qu'ils avaient envie de sortir un nouvel album. Kurt Cobain avait de nouveau le besoin de s'exprimer, parce qu'il s'exprimait au travers de sa musique. Donc après le succès absolument titanesque de Nevermind, c'était des gamins, quoi. Ils avaient la vingtaine. Il leur est tombé un truc qui fonctionne, mais qui cartonne, un truc de malade. Ils sont perdus, etc.
C'est un des albums les plus vendus au monde,
exactement,
30 millions de ventes.
C'est ça,
c'est énorme.
Et donc In Utero est écrit dans un but de revenir aux sources, parce que il n'a pas du tout été écrit dans le même but et dans le même état d'esprit que Nevermind. Là il retourne un peu aux sources, ils veulent refaire un truc plus comme ce qu'a été Bleach, plus crado, plus sincère, plus authentique, plus ils veulent revenir à ce qu'ils savent faire, et en fait il a été écrit dans le but de pas être vendu. Il voulait que ce soit inaudible, etc., sauf qu'en fait il cartonne encore plus.
Il y a d'ailleurs eu très peu de promotion sur ce projet là,
quasiment
volontairement
pas.
Par le label, justement, parce qu'il voulait éviter c'était une surmédiatisation. Exactement. De ça, d'où le fœtus, ouais, aussi sur la pochette. Enfin, vraiment, il y avait une volonté de juste pas, voilà, plaire, et globalement. Exactement.
Et pourtant.
Et d'ailleurs, sur l'album In Utero, il y a dans les remerciements de l'album, il y a Quentin Tarantino.
Et oui, parce que Reservoir Dogs.
Non, c'est Pulp Fiction.
Ah, Pulp Fiction.
Aïe, 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 aïe.
Non, j'étais presque.
Aïe, 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 aïe. La boulette, la
une
boulette.
Chance sur neuf.
Et en fait, en gros, Tarantino avait demandé à Kurt Cobain avant de mourir de jouer le dealer dans Pulp Fiction.
Ok.
Chose qu'il n'a pas pu faire.
C'est une rumeur d'ailleurs.
Parce qu'il est mort.
Oui, mais c'est une rumeur qui a été lancée par Courtney Love et qui en fait est fausse.
Et qui est fausse.
Ouais, quand Tarantino a démenti cette rumeur.
Ouais,
désolé.
Mais il est quand même. Kurt Cobain, oui, est quand même dans les remerciements de Pulp Fiction, hein.
Oui, et mais quant à Tarantino, et aussi sur les remerciements de l'album.
Oui.
Voilà.
Nous ne saurons pas plus.
C'est un big up.
Mais je crois que c'est parce qu'il apprécie, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de Reservoir Dogs, parce qu'il apprécie le film et la musique.
Ouais,
du film,
ouais,
c'est pour ça.
Ah, bon, en tout cas, il était très fervent défenseur de l'art en général.
Voilà. Ouais. Et dans ce même album, il y a une autre musique qui s'appelle Earthshape Box et qui parle simplement, c'est déjà le premier single de l'album In Utero, oui, et qui parle de l'amour. De Kurt Cobain.
Ouais. Alors, c'est la version un peu officielle.
Courtney Love. Voilà, ouais, c'est ça. On vous invite une nouvelle fois à regarder le documentaire sur Kurt Cobain, ouais, Montage avec, qui dit clairement la vérité sur beaucoup de choses.
Oui. Globalement, c'est ça.
Voilà. Sur la relation notamment qu'il a eue avec cette madame.
Relation très saine.
On va pouvoir écouter cette chanson.
On rembobine.
Box for weeks.
On rembobine de 21h à 22h sur RCN.
Et Earth Chip Box, le morceau sur l'album In Utero en 93 de Nirvana, bien sûr. Mon petit Pablo, t'as une petite histoire avec ce morceau-là?
C'est même pas une histoire, c'est plus une question. En plus, c'est pas foufou.
Oh, wow.
Mais, est-ce que vous savez où est-ce que la chanson a été enregistrée et interprétée pour la première fois?
Dans une chambre.
Non, c'est un pays.
Ah, la France.
Non.
C'est ton côté chauvin là, il a
je
fait
ça
la
France. Je sais pas, ça aurait été marrant, tu vois, c'est pour l'anecdote, je me suis dit, oh vas-y, il va nous sortir.
Et bah,
la
c'est
France
dans mon salon.
Oh mais non. Waouh, je sais pas.
Mais non, OMG.
C'est au Brésil. Voilà. Okay. Je trouvais ça rigolo parce que je trouvais ça drôle.
Okay.
Genre vraiment.
Le Brésil.
C'est le Brésil.
Ils sont beaucoup allés au Brésil. Hein,
oui,
ok. Oui, voilà. Oui. Je savais pas.
D'ailleurs, est-ce que vous voulez une anecdote sur
oui, vas-y, on adore les anecdotes.
En gros, pendant une tournée, ils sont au Brésil.
Mm-hmm.
Kurt Cobain avait, on va dire, quelques problèmes de dépendance.
D'accord.
À certaines substances.
Mm-hmm.
Il avait des contacts, il était dans la musique, tout le monde se connaît dans la musique, voilà. Au Brésil, il y a un groupe de thrash metal très connu qui s'appelle Sepultura.
Ok.
Et il a réussi à choper le numéro du chanteur en l'appelant en lui disant mec, t'as pas l'héroïne s'il te plaît?
Tu fais bien quelque chose.
Il parlait précisément voilà. Comme ça. Okay. Do you have some heroin?
Okay.
Voilà. Ce à quoi a répondu le chanteur, donc Max Cavalera. Non.
Ah.
C'est un chien.
Et voilà, l'appel, c'est
oh
ça.
Non.
Et c'est
juste
vrai truc.
Non, quoi.
C'est non. Ok. Non, j'en ai pas.
Et du coup, après cet album-là, bah, il y avait plus d'autres albums, mais ils ont fait une performance qu'on appelle un MTV Unplugged, c'est-à-dire que c'est en acoustique.
Wow.
Enfin, à peu près, même si bon, il y a une batterie et tout, mais ça reste une guitare acoustique, une basse acoustique même,
ouais,
un violoncelle. Acoustique. Il y avait un violoncelle aussi.
Mm-hmm.
Et donc, ils nous ont livré une performance en direct sur MTV incroyable et mémorable.
Et qui n'aurait jamais dû avoir lieu normalement.
Ouais, et oui,
de parce fou. Que Kurt Cobain avait du coup des gros problèmes de santé.
Mm.
Ce qui était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il prenait de la drogue, parce que ses médocs ne marchaient plus.
Mm.
Et donc, c'est quelques temps avant, il est très très malade, il va pas bien du tout, il a super mal au ventre et il dit bah en fait là si ça continue comme ça on va devoir annuler.
Ouais.
Chose qu'ils ne veulent pas en soi hein, parce qu'ils disent pour la musique.
Bien sûr.
Et en fait il y a plein de gens qui disent, j'ai déjà entendu plein de gens me dire ouais mais en même temps le MTV Unplugged c'est peut-être là une des fois où il était sobre et tout.
Mm-hmm.
Il était
au contraire,
défoncé.
Il était complètement
ah,
défoncé.
Voit, hein.
Il avait pris une quantité de médocs d'antidouleurs absolument astronomique pour s'anesthésier
ouais,
avant de
sûr.
Pouvoir monter sur scène parce que sinon clairement il n'aurait pas pu quoi.
Bah, ouais.
Donc à quelques ça s'est vraiment joué à pas grand chose alors que c'est je pense quand même et assez généralement un des concerts les plus mémorables qui est resté en tout cas
bien sûr.
Plus dans les mémoires
ah, oui. Et on vous invite à aller le voir si vous pouvez hein.
Ouais, carrément.
Et qui a carrément relancé d'ailleurs les ventes aussi de leur dernier album
de In Utero
ouais,
exactement,
qui était un peu
exactement.
Bah, pas forcément bien reçu et c'était ça a propulsé ça après
ouais, ouais. Bien sûr.
Et le label a d'ailleurs ressorti ensuite ouais. Un projet live avec du coup tous les sons qu'ils avaient interprétés pendant
c'est
ce
ça.
Et ce petit moment.
Et à la fin de ce concert, ils ont joué une dernière musique qui s'appelle Where Did You Sleep Last Night et qui est c'est une musique du folklore en fait, c'est pas
ça.
Eux du tout qui l'ont composée.
Ouais,
après, ils l'ont fait.
Le 19e siècle,
c'est
je crois.
Ça. C'est ça. Exactement, c'est je crois 1870.
Exactement,
waouh.
Ouais,
wow.
Autour de la.
L'identité, bien sûr, elle est inconnue hein, de
ouais,
l'auteur,
ouais,
mais bon, il y a eu beaucoup de. C'est ça, donc ça tourne.
Ouais, ouais.
Il y a eu beaucoup de reprises et donc notamment celle de Nirvana hein, qui rajoute bien sûr sa patte. On va se quitter avec cette chanson et du coup. C'est déjà la fin. Oh non,
attends,
c'est trop
juste une anecdote
non.
Sur ce son avant.
Vas-y, et comme ça, on l'envoie après.
Ouais.
Vas-y.
Du coup, ça a été repris vu que c'est un classique folk
ouais.
Américain.
Bien
ça a
sûr.
Été repris par plein d'artistes, dont Lead Belly. C'est
Belly,
un chanteur, enfin plutôt un guitariste de
mm-hmm.
folk blues noir américain. Et Kurt Cobain a avoué que c'était sa reprise qu'il préférait
oui.
À
ouais. Bah, il
que...
le dit d'ailleurs dans le MTV.
Ouais, il était très très fan de Lead Belly, Johnny Cash,
ouais.
Tous ces mecs-là, un peu blues folk. Il aimait beaucoup beaucoup ça pour le coup.
Et on vous invite à voir la performance en live qui est simplement incroyable.
Carrément.
Même avec la vidéo
ouais,
hein, surtout. Bah, en tout cas merci pour cette émission, merci Maxime d'être venu.
Bah, mais grand plaisir, merci de m'avoir invité.
Tu reviens quand tu veux.
Ah, bah,
c'était super.
Très très hâte
très,
la prochaine
cool.
Fois.
Merci. Merci Pablo, bien sûr.
Avec plaisir,
toujours
comme
là
d'habitude.
Pour cette 10e émission. On se retrouve la semaine prochaine et aussi dans 2 semaines. Et après, on fera une petite pause, mais on vous en reparlera bien sûr.
Oui, oui, oui.
Et on vous prépare des petites surprises, hein,
oui.
Notamment en rapport avec la saison.
Oh, arrête. C'est Noël ou quoi?
Eh ouais, une petite compilation de Noël peut-être.
Ah bon?
On verra.
Attendez, je leur dis avec la voix de Kurt Cobain.
Vas-y.
T'es Noël.
En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Et
merci,
on se merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, 21h. Mais on se quitte avec, bien sûr, Where Did You Sleep Last Night.
On rembobine.
In the